La chronique gaming avec Simon J.
Il est sorti de sa chambre spécialement pour l'émission.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chronique gaming. Aujourd'hui, j'ai choisi pour thème un sujet qui peut énormément questionner l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo. Et je me suis posé cette question quand j'ai cherché mon thème. Et si demain, les jeux vidéo étaient créés entièrement par intelligence artificielle ? C'est une question qui peut sembler un peu futuriste, mais en réalité, l'IA est déjà en train d'arriver très vite dans l'industrie du jeu vidéo. Depuis plusieurs années, les studios utilisent des technologies d'intelligence artificielle pour améliorer certains aspects du développement. Mais aussi, on parle d'une nouvelle génération d'outils, les IA qui sont capables de créer du contenu. Concrètement, certains studios commencent déjà à expérimenter des systèmes capables de générer automatiquement des dialogues, de créer des textures ou certains éléments graphiques, ou encore d'aider les scénaristes à écrire des quêtes secondaires, des quêtes principales. On préfère quand même quand c'est un humain qui s'en charge plutôt qu'une intelligence artificielle. Mais pour les studios, l'intérêt c'est évident. Développer un jeu moderne, ça peut prendre plusieurs années et ça mobilise des centaines de personnes. Si une intelligence peut accélérer certaines tâches, ça pourrait transformer profondément la façon dont les jeux sont créés. Et pour les joueurs, ça peut même signifier des mondes plus vastes, plus dynamiques, et parfois même des histoires qui s'adaptent davantage en fonction des joueurs. Mais l'intelligence artificielle pourrait aussi transformer la façon même dont on joue aux jeux vidéo. Aujourd'hui, dans la plupart des jeux, les personnages non-joueurs, qu'on appelle PNJ, suivent des comportements assez limités. Ils ont souvent des dialogues écrits à l'avance et réagissent de manière très précise à certaines actions du joueur. Avec l'arrivée de nouvelles formes d'IA, ces personnages pourraient devenir beaucoup plus dynamiques. Les dialogues ne seraient plus forcément écrits à l'avance, mais générés en fonction de la situation. L'IA pourrait également transformer la narration. Les quêtes pourraient changer selon les décisions du joueur, ou même être générées en temps réel, en fonction des actions que le joueur décide de faire. Les mondes du jeu pourraient également devenir plus vivants, des villes qui évoluent avec le temps, des personnages qui ont leur propre routine, ou des événements qui se produisent indépendamment du joueur. Certains jeux ont déjà posé les bases de ce type de système. Par exemple, dans The Elder Scrolls Skyrim, les habitants des villes ont déjà des routines. Ils travaillent, mangent, dorment ou se déplacent selon l'heure de la journée. Avec l'IA plus avancée, ces systèmes pourraient devenir beaucoup plus complexes, et à terme, cela pourrait signifier qu'aucune partie ne serait exactement la même, chaque joueur vivant une expérience différente. Mais cette évolution soulève aussi une question importante, celle, évidemment, des emplois dans l'industrie du jeu vidéo. Si l'intelligence artificielle devient capable de générer des dialogues, de créer des textures, etc., certaines tâches pourraient progressivement être automatisées. Et cela inquiète déjà plusieurs métiers du secteur. Les artistes qui créent les visuels, les animateurs qui donnent vie aux personnages ou encore les scénaristes qui écrivent les histoires et les dialogues. Ces inquiétudes arrivent dans un contexte déjà fragile pour l'industrie. Je pense notamment à des studios qui ont procédé à de nombreux licenciements récemment, parfois même après la sortie de jeux qui ont pourtant été très bien accueillis par le grand public. Par exemple chez Ubisoft, il y a eu environ 1500 postes qui ont été supprimés en un an dans le cadre d'un vaste plan de réduction des coûts et pour développer l'intelligence artificielle. Et c'est toujours pas fini d'ailleurs, ils continuent de licencier, c'est un peu le gros problème chez Ubisoft en ce moment. Et dans ce contexte, certains observateurs craignent que l'IA devienne aussi un moyen pour les entreprises de réduire les coûts de production aux dépens des métiers qui sont gérés par des humains. Le débat est donc très présent dans l'industrie, et pour certains, l'intelligence artificielle doit être un outil pour aider les créateurs, leur permettant de gagner du temps et de se concentrer sur les aspects les plus créatifs du développement. Et pour d'autres, il existe un risque que ces technologies soient utilisées pour remplacer une grande partie du travail humain. La question reste donc ouverte, peut-on réellement remplacer la créativité humaine par l'IA ? Et surtout, quel est l'avenir pour les développeurs de jeux vidéo ? En plus des aspects économiques et techniques, on peut aussi s'intéresser à la partie artistique du jeu vidéo. Beaucoup de joueurs aiment sentir la vision d'un créateur derrière un jeu. Une direction artistique, une écriture ou même une ambiance, c'est des éléments qui viennent souvent du cerveau humain. Et c'est ce qui fait qu'un jeu peut marquer les esprits. Certains craignent qu'avec l'IA, on voit apparaître des jeux moins originaux, produits plus rapidement, standardisés. Si des outils automatisés permettent de générer du contenu en masse, il pourrait y avoir une multiplication de jeux très similaires, construits à partir des mêmes modèles. On peut penser à des jeux indépendants, très marqués par la vision de leur créateur, comme Undertale ou encore Hollow Knight. Et ça, c'est des titres qui ont marqué les joueurs grâce à leur univers, leur style et leurs idées originales, et ce sont justement des exemples de jeux qui existent avant tout grâce à la créativité humaine. Et donc pour terminer, il est évident que l'intelligence artificielle peut révolutionner la création de jeux vidéo en accélérant le développement, en créant des mondes plus vastes ou proposer des expériences dynamiques, ça c'est plutôt des bons points. Mais en même temps, eh ben, ça soulève aussi des questions importantes sur l'avenir des métiers du jeu vidéo, sur la place de la créativité humaine dans cette industrie. Et bien évidemment, vous le savez déjà, mais c'est un débat qui dépasse de loin le monde du jeu vidéo. Mais je trouvais que c'était important de rappeler les risques de l'IA pour les métiers artistiques ou de création, en général, dans le monde de la musique, du cinéma, on a ce débat partout. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette chronique, et je voulais terminer sur vous poser la question, est-ce que pour vous, la créativité humaine risque d'être remplacée par l'IA en général?
Bah en fait, j'espère pas, parce qu'il y a des bons points, comme tu disais, par exemple pour les PNJ qui soient plus animés, ok, c'est super, mais quand on voit les derniers jeux qu'on a, par exemple en France, on a Clair Obscur, exceptionnel, très très beau jeu, etc., l'IA ne pourrait jamais faire ça, d'accord? Donc moi je trouve que c'est dommage, mais voilà, ça peut être bien dans certains cas.
De le garder comme outil, quoi.
Voilà,
c'est vraiment
ce qu'on dit pour tout. Ce qu'on dit pour tout, c'est
qu'il faut l'utiliser, quoi.
Comme un outil et pas comme créer tout, quoi. Avec...
C'est ça. Ouais.
Parce que comme tu l'as dit aussi, ça risque de standardiser tous les jeux vidéo, parce que l'IA a tendance à faire toujours la même chose.
Suivre un modèle.
C'est ça. Et donc, on risque d'avoir des jeux très similaires, alors que c'est intéressant d'avoir des choses qui sortent du lot.
Ouais, c'est ça. Bah justement, des jeux, c'est là que je ferai une chronique là-dessus, sur les jeux indépendants. Mais les petits créateurs, souvent, ils créent des jeux qui marquent les esprits et qui deviennent des colosses dans l'industrie. Donc Undertale, Hollow Knight, plein de jeux, même Clair Obscur, qui est un jeu indépendant à la base. Et pourtant, il a gagné les Game Awards. Et tout ça, c'est vraiment, ça vient du cerveau humain. Pour Clair Obscur, il y a eu de l'IA pour certaines textures, et ça a fait un peu scandale. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment du contenu qui est créé par des humains, pour des humains. Donc voilà, on espère que ça va continuer comme ça, et que l'IA ne va pas tout remplacer trop vite. Et c'était tout pour aujourd'hui, et j'espère que vous saisissez l'importance de cette question pour l'avenir du gaming. C'était Simon J pour la chronique gaming, et je vous dis à bientôt sur Radio G.
Le zapping des lycéens
sur Radio G.
Merci Simon J, on continue de parler de l'IA tous ensemble. Tout d'abord, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien, déjà?
Moi, pas énormément.
Pas énormément?
Ça m'arrive très rarement, genre quand je veux faire des... Parfois, c'est sur un truc très poussé où genre, c'est compliqué de faire des recherches. Mais sinon, c'est assez rare que je l'utilise.
Moi, je me rappelle que par exemple, ChatGPT s'est démocratisé, je me rappelle que j'utilisais beaucoup. Oui. Mais après, je me suis dit que fallait mieux me débrouiller tout seul.
En fait, tu trouves ça fascinant au début.
Ouais, c'est ça. Au début, c'est impressionnant. Ça. Ça marche tout seul, c'est trop cool. Mais il vaut mieux faire les trucs soi-même, quoi. Quand c'est possible, bien sûr.
Et toi, Melinda?
Un peu pareil que Simon. En fait, ça dépend. Il y a des moments. Pour faire des recherches, c'est sûr que ça va très très vite. Donc, c'est pratique. Ça te fait une synthèse de tout. Mais ça fait. Du coup, tu ne sais plus le faire toi-même, quoi, les synthèses. Tu perds tout ton savoir, on va dire. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent pour faire leurs devoirs.
Il y a un truc que je me rappelle, c'est mes parents qui m'avaient dit ça au début. Ils me disaient, c'est quoi la différence entre faire une recherche sur Google et une recherche avec l'IA? Et en fait, je me suis dit que sur le papier, c'est la même chose. C'est juste que sur Internet, tu vas tomber sur des sites, etc. Alors que l'IA va t'apporter une réponse qui est rédigée.
Toute faite,
Et du coup, c'est plus... c'est plus cool de recevoir ça, tu as vraiment ce que tu cherches. C'est plus efficace, t'as moins besoin de chercher.
D'efforts au niveau de qu'est-ce que tu vas rechercher.
Trier,
alors que c'est important de savoir, trier les informations, savoir déterminer qu'est-ce qui est important, etc. C'est des choses importantes à savoir faire.
Ouais, c'est ça, sinon on perd le fait de savoir chercher, de faire de l'effort mental. Surtout que c'est pas un effort de fou, on va pas se mentir. Faire une recherche Google, c'est à notre portée.
Après, il arrive aussi que lorsqu'on demande des choses à ChatGPT, la plupart du temps c'est très brillant ce qui nous sort, mais il peut aussi y avoir des trucs faux en fait.
Oui, c'est ça. C'est
et on n'est pas à l'abri de ces fausses informations en fait.
Ouais, c'est ça. C'est ce que tu parles d'ailleurs, c'est les hallucinations, je crois qu'on appelle ça. Dans les IA, où genre elles sont persuadées qu'un truc est vrai, et quand tu lui dis non, c'est faux, elle dit oui, pardon, c'est faux.
Oui, c'est ça, elle est toujours d'accord avec toi.
Ah oui, alors ça, c'est vrai. Ouais. L'IA sera toujours d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'elle n'a pas de sens critique, et c'est normal, parce que c'est l'intelligence artificielle, mais tu ne peux pas débattre avec cette personne.
Je crois qu'ils essaient de plus en plus de la faire, de la rendre fiable, entre guillemets, sans qu'elle te suive, forcément, si tu dis un truc faux, mais c'est encore pas mal si tu lui dis, imaginons, tu lui affirmes quelque chose de faux. elle va te croire et te dire oui, c'est bien ça, etc.
Après, l'objectif de l'IA, c'est aussi de plaire aux utilisateurs. Donc,
oui, c'est ça. Donc,
c'est ça. Voilà.
Si tu commences à parler avec une IA et qu'elle
beaucoup
dit que...
aussi de.
Oui, bah, c'est oui. ça. Ouais. C'est, ce que je voulais, c'est ce que je voulais enchaîner.
Vas-y, ouais.
Sur la consommation, ouais. en, notamment en eau, de l'IA.
Bah, pour le refroidissement, vu que c'est des serveurs, ouais. des grands serveurs qui stockent ta donnée, qui font tourner les.
C'est ahurissant à quel point ça consomme de l'eau.
Oui, l'électricité. L'eau, c'est. On voit aussi l'électricité, ça dépend. Après, comment ils produisent l'électricité, mais.
Parce que des fois, les data centers des IA, ils sont genre dans les déserts aux États-Unis. Et du coup, ils ont besoin d'eau. C'est mais vrai. Du coup, les habitants d'à côté, ils n'ont pas d'eau. Oui, parce qu'il faut alimenter les IA.
C'est pas la meilleure idée de mettre des data centers dans le désert, je pense.
Bah, si, parce que c'est là où ça coûte moins cher.
Ouais, mais pour refroidir, c'est chiant.
Bah, oui, mais ça coûte moins cher.
Ah, oui,
non, c'est vrai, c'est vrai. Ça coûte moins cher.
C'est comme ça qu'ils pensent, les Américains. Et pas que. Parce qu'en France aussi. On a des IA en France. Est-ce que vous avez testé un petit peu les IA françaises?
Dis-moi les noms. Parce que...
Mistral. Ah tu connais un peu?
Pas du tout.
J'ai testé en cours de techno parce que c'était obligé. Mais sinon.
Nous, c'était en fait, fallait qu'on. Pour savoir comment utiliser l'IA, on avait des exercices à faire, mais par contre, c'était avec une IA française et pas
avec
une
le chat, je crois.
Oui, mais c'est Mistral, le chat. Oui, voilà. Et en vrai, très fort. Hein. Ouais. Très fort pour des Français, franchement. Et sinon, est-ce que vous utilisez l'IA pour vos révisions un petit peu?
Pas du tout.
Moi, ça m'arrive des fois et c'est très pratique, j'avoue.
Pour faire des fiches méthodes, non?
Ouais, pour faire des fiches de révision, c'est très fort.
Ouais, ouais.
Pour, par exemple, si tu veux faire un QCM, tu sais que tu as Gemini, l'IA de Google, il peut te faire des QCM à partir de ton cours. Et c'est super. Mais
t'as des plateformes. Moi, je sais que j'ai une plateforme, je crois que ça s'appelle School Move, un truc comme ça, où j'ai des.
Ah oui,
des
School Move.
QCM. Ouais. Mais le souci, c'est que moi, en fait, je peux pas demander à l'IA parce que je retiens mieux en écrivant, en fait. Donc, s'il me le fait.
C'est ça, mais c'est qu'il y a des personnes qui ont différentes manières d'apprendre.
C'est ça. C'est
sûr que moi, les QCM, ça marche bien.
Ouais, c'est vrai, c'est un bon outil.
Voilà, si vous voulez tester.
Bah, c'est ça, il faut l'utiliser à bon escient.
Voilà, à bon escient.
Je me rappelle que j'avais été traumatisé sur la question des devoirs avec l'IA.
Ouais.
C'est que j'avais passé un week-end, tout simplement, à rédiger un texte en français. Et quand je l'ai rendu à mon prof, il m'a dit que c'était de l'IA. Et du coup, il m'a mis une note nulle.
Alors que c'était pas de l'IA?
C'était pas de l'IA, c'est juste moi qui avais bossé de fou. Et j'étais trop fier de mon texte et au final, j'ai eu une note
nulle. Non, ça c'est horrible.
C'était en quatrième.
Ah, c'était en quatrième. Ah, j'ai eu peur.
Et je lui en veux toujours.
Et il t'a pas écouté?
Non. Il m'a dit, je regarde pas les noms des copies, ça ressemblait à de l'IA, donc j'ai mis que c'était de l'IA.
Ah oui, d'accord. Bah, en même temps, de nos jours.
Alors là, si le talent c'est de l'IA.
Après, je comprends que c'est difficile de détecter.
Il savait déjà que t'étais un bon élève, non?
Non, c'est un nouveau prof.
Ah! C'est pour ça.
Ouais. Ok. Nickel, merci à tous en tout cas pour le débat.
Le zapping des lycéens, un mardi sur deux de 13h à 13h30 sur Radio 2.